Bienvenue à cette deuxième partie du discours. Toujours l'exploration de la permanence. Et ici, nous allons nous tourner plus vers d'autres compréhensions que peuvent amener la permanence, notamment en lien avec des mots. Les mots qui vont revenir, c'est la constance et la solidification. Inconstance, c'est en fait anicca, qui est le mot d'origine dans le bouddhisme pour l'impermanence, est parfois aussi traduit comme inconstance. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est plutôt prendre un exemple, qui est même un exemple direct, perçu. Donc si on écoute le son du bol, le son du début à la fin, le son du bol est un bon exemple de la permanence parce qu'on sent vraiment qu'il y a un début, une durée et une fin. Mais on peut aussi voir qu'il y a une inconstance dans le sens où ce n'est pas une chose. Au moment où il est frappé, il y a vraiment comme on entend le coup. Et puis après ça, il y a tout un jeu d'ondes, des ondes assez différentes les unes des autres, en fait, si vous avez bien entendu, qui ont des fréquences différentes, certaines qui sont beaucoup plus rapprochées, d'autres qui sont plus éloignées. Et donc toutes ces fréquences vont et viennent, s'entremêlent, tout en montant en volume et puis en descendant en volume. Donc en fait, on dit le son du bol, mais ce n'est pas un son du bol, c'est plein de choses en fait. Si on va dans le détail, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a le son du bol. Quand on dit le son du bol, en fait, on solidifie, c'est-à-dire qu'on identifie en une chose quelque chose qui est pluriel. Et ça, c'est une compréhension en fait, qu'il est bon qu'on va explorer et qu'on va essayer de décliner pour voir ce que ça peut libérer aussi dans notre quotidien. Par exemple, l'autre jour, je faisais du vélo. Et puis, voilà, à un moment, je me dis, ouais, c'est quand même... Qu'est-ce que j'aime ça, le vélo, et j'aimerais bien en faire plus, il faudrait que j'en fasse plus, en fait. Et puis, je suis conscient de cette pensée, et je sais que quand j'ai ces pensées, en général, j'ai comme un post-it là, qui me met revenir au moment présent, ou voilà, tu es en train de faire du vélo, alors commence pas à réfléchir pendant tout le moment où tu fais du vélo, que tu devrais faire plus de vélo, et du coup, ne pas vraiment être sur ton vélo. Vous voyez, le truc, c'est impermanent. Si je me mets à me dire qu'il faudrait que je fasse plus de vélo, et que peut-être ceci, cela, eh ben, le temps que je fais du vélo va passer à gamberger, et je ne ferai pas vraiment du vélo. Ok, donc, ça me permet de lâcher et de revenir à faire du vélo. Mais en fait, je reviens à quoi? Là, j'étais dans une côte, ben, je reviens au souffle court, je reviens à les muscles qui chauffent, je reviens à mon regard qui est plutôt vers la roue et sur la route, et je reviens à des sensations physiques. En fait, je ne reviens pas à faire du vélo, je reviens à plein d'expériences dans le moment dont aucune ne peut être dite que c'est ça faire du vélo. C'est la respiration un peu forte, c'est vraiment la sensation d'effort. Et puis, en fait, je me rends compte que faire du vélo, ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi des moments arriver à une sensation de satisfaction, d'arriver sur un sommet. Et puis, ça peut être faire du vélo, ça peut être des grandes vues. Hein, et puis, du vent dans le visage, c'est une sensation d'euphorie. Ou ça peut aussi être une sensation de « qu'est-ce que j'aimerais bien être rentré à la maison maintenant ?» Hein, ça devient long. Et en fait, faire du vélo, mais c'est plein de choses, en fait, faire du vélo. C'est pas une chose. Mais c'est symbolisé, c'est synthétisé et c'est rassemblé dans une boîte qu'on appelle faire du vélo. Et du coup, j'aimerais bien faire du vélo plus. Mais faire du vélo, c'est des millions de choses, en fait. C'est des millions d'impressions vécues, seconde après seconde, qui sont toutes différentes les unes des autres. Dont aucune ne peut être dite, c'est ça, faire du vélo. Et en même temps, toutes font partie de ce que j'entends par « j'aime faire du vélo ». Et d'ailleurs, ce n'est même pas totalement vrai, parce qu'il y a des moments où je n'aime pas faire du vélo, parce que j'aurais envie d'être rentré, ou bien ça commence à être un peu long, ou bien il y a des moments où même le plaisir de faire du vélo, ce n'est pas quelque chose de linéaire, ça va et ça vient. Donc ça, je reviendrai à la dissolution après, parce que je vais, pardon, la constance après, parce que là, je suis parti plus sur la solidification. Ils se mélangent en fait ces deux-là. Mais donc ça, ça s'appelle la solidification. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir réfléchir, on rassemble tout un tas de phénomènes en un seul concept. C'est ce que Albert Mukeber, le neuroscientifique là, dont je parlais ce matin, il appelle ça, c'est réduire l'incertitude en fait. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'informations qui nous parviennent tout le temps, par seconde, des millions de perceptions qui nous parviennent tout le temps, et le cerveau, lui, rassemble les perceptions, les met ensemble et fait une image cohérente en fait de ce qui doit être perçu. Et donc, il attribue tout un tas de perceptions à une chose et dit voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et du coup, on fonctionne avec des raccourcis. C'est comme des raccourcis en fait, qui nous permettent de naviguer en reconnaissant les choses au fur et à mesure qu'on les rencontre. Si on n'avait pas cette capacité de faire des raccourcis constamment, on ne pourrait pas sortir dans la rue sans se faire écraser, on pourrait juste pas fonctionner. On a besoin de ces raccourcis constamment pour pouvoir fonctionner. Mais ces raccourcis, aussi utiles soient-ils, ça peut poser des problèmes. Parce que, par exemple, si je vois ma compagne qui rentre et que ben, si je vois. Donc le raccourci il va faire, ben, je vois, elle arrive, je reconnais Lydia. Ah, c'est Lydia. Mais en fait, je ne suis pas en contact avec ce qu'elle est là dans le moment. C'est comme si j'étais en contact avec elle à travers une idée que j'ai d'elle. Quand je vois, si je dis ma femme, je vois ma femme, eh ben c'est, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend en fait énormément de choses. Ça sous-entend tout un passé, ça sous-entend un statut social, ça sous-entend tout notre vécu, tout ce qu'on a traversé ensemble et tout ça, et quelque part stocké en moi. Il est dans cette grande boîte que j'appelle ma femme. Et quand elle arrive, hop, c'est une simplification, plutôt que de chaque fois devoir refaire toute l'histoire de tout ce qu'on a vécu et tout ça pour savoir qui c'est. Ce ne serait pas fonctionnel. Et c'est comme ça pour tout. En fait, on fonctionne avec des simplifications pour pouvoir reconnaître qui on est par rapport aux gens, qui les gens sont par rapport à nous, les objets, les choses, tout est simplifié de manière à les reconnaître. Mais on ne se rend pas compte de ça. Vous voyez, par exemple, hein, quand mon fils était petit et que je lui montrais parfois, on était en voiture, et je lui montrais, tiens, regarde le cheval là dans le pré. Il était là, où? Le cheval, il était juste là, il était tout petit, il apprenait la parole et tout ça. Mais il ne voyait pas, parce qu'il n'avait pas encore fait ce travail de mettre chaque chose à sa place. C'est-à-dire, un cheval, c'est ça, et tout ce qui est autour, c'est pas cheval. Un arbre, c'est ça, et tout ce qui est autour, c'est pas arbre. Un rocher, c'est ça, et tout ce qui est autour, c'est pas rocher. Et le ciel, c'est ça, et tout ce qui est en dessous, c'est pas le ciel. Et alors, et ça lui prenait un temps énorme, en fait, pour redistinguer, mettre. Les enfants, ils voient tout en une seule image, en fait. Et puis après, peu à peu, on distingue ceci, c'est cela, et c'est séparé de ça, et ceci, c'est cela, et c'est séparé de ça. Et en fait, je me disais, par exemple, les poteaux, vous voyez, les poteaux téléphoniques en bois, eh ben, les enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des bouts de bois plantés. Nous, on ne voit plus des bouts de bois plantés. Ça ne vient plus dans notre moment présent. La première chose qui arrive à notre conscience quand on voit un poteau téléphonique, c'est poteau téléphonique, c'est pas bout de bois planté. Avant, au début, c'était bout de bois planté. Mais ça s'est complexifié avec le temps. C'est simplifié pour qu'on puisse fonctionner. Mais tout, en fait, toutes nos perceptions se sont complexifiées, sont devenues extrêmement complexes. Et ça, évidemment, est extrêmement pratique et utile, mais pose problème si on ne relationne qu'à travers ces simplifications. Si on n'a pas la possibilité de temps en temps sortir de là et voir les choses comme si c'était la première fois qu'on les voyait plutôt. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on connaît déjà. C'est ça, une simplification. Krishnamurti avait ce très beau titre dans un de ses livres, c'est se libérer du connu. Parce qu'en fait, on ne voit que le connu. On voit ce qu'on connaît. On ne voit pas ce qui est là, on voit ce qu'on connaît. Et ça rejoint ce qu'on disait ce matin. Pas il faut le voir pour le croire, mais il faut le croire pour le voir. On a une idée, et hop, c'est cette idée-là qu'on voit en fait. Alors de temps en temps, il faut pouvoir relationner avec les gens qui sont autour de nous dans une sensibilité plus grande que simplement à travers des idées qu'on a construites dans le temps. Et pareil avec nous-mêmes, il faut pouvoir relationner avec nous-mêmes au-delà d'une idée qu'on s'est construite de nous-mêmes dans le temps, c'est-à-dire revenir en présence de la subtilité étonnante de ce qu'on est dans le moment, plutôt que dès qu'on pense à soi-même, ou dès qu'on rentre en contact avec nous-mêmes, ramener implicitement, on ne s'en rend pas compte évidemment, hein. Comme quand on voit un poteau téléphonique, on voit un poteau téléphonique, ben c'est normal. On ne se rend pas compte qu'en fait c'est un bout de bois planté qui est devenu un poteau téléphonique. Et nous, pareil, on ne se rend pas compte qu'on a une nature qui peu à peu est devenue toute une histoire très très complexe. Et on relationne, dès qu'on rentre en contact avec nous-mêmes, on rentre en contact en fait à travers une histoire très très complexe. Et ça, c'est très évident quand on a des enfants, parce que l'histoire complexe, évidemment, elle est tout le temps implémentée de nouvelles données. Au fur et à mesure qu'il y a du changement, même nous et notre histoire, le monde, au fur et à mesure qu'on le découvre, se complexifie de plus en plus, on le symbolise de plus en plus pour pouvoir de nouveau le comprendre et fonctionner à l'intérieur de ce monde. Et un enfant, pareil, en tant que parent, ben, on évolue. On adapte l'image qu'on donne de notre enfant, mais beaucoup trop lentement par rapport à la vitesse à laquelle il change. Donc on est toujours en décalage. En fait, on est toujours en retard par rapport à la vitesse à laquelle un enfant change. Et du coup, on le voit toujours parfois 2 ans plus jeune, et donc plus incapable quelque part que ce qu'il est vraiment. Et le fait d'adapter cette histoire constamment, ce narratif de notre enfant, cette image qu'on construit pour relationner avec lui, en fait, on est toujours en retard, en fait. Et de temps en temps, on a besoin de la capacité de relationner à quelque chose ou à quelqu'un en mettant en veilleuse cette histoire. Et en sentant là, comment c'est là maintenant, juste là maintenant, comment c'est? Qui es-tu en ce moment? Qui es-tu là maintenant? Déconnecter mon ami ou mon ennemi, hein, c'est pareil, hein, un ennemi c'est une solidification. Personne n'est un ennemi jusqu'à ce qu'on en fasse un ennemi. Un ennemi c'est quand on a eu des difficultés avec quelqu'un et suffisamment de difficultés avec quelqu'un pour un moment le mettre dans un rôle, c'est une boîte. Et de temps en temps réussir à désolidifier ça fait partie de la pratique. Pour revenir à beaucoup plus de subtilité, de spontanéité, de finesse. Et il y a une pratique, je vais venir un petit peu à un aspect légèrement différent et puis je parlerai de cette pratique. Un autre exemple alors. On va dire, ben voilà, ça fait 3 jours que j'ai mal à la tête. Ça aussi, c'est une solidification. Ça aussi, c'est une sursimplification parce que dans la réalité, on n'a pas eu mal à la tête continuellement pendant 3 jours. Déjà, si on regarde dans le détail un mal de tête ou comme quoi que ce soit en fait, c'est comme le bol. Ça bouge tout le temps. C'est pas une douleur fixe, solide et stable qui n'est qu'une seule chose. C'est souvent une composante de plein de choses qui parfois sont plus denses, parfois qui pulsent plus large, parfois qui ne sont pas au même endroit, parfois plus intenses, moins intenses, et c'est tout en mouvement. Donc ce n'est pas une chose, mais ce n'est pas non plus constant. Il y a une inconstance au mal de tête et à toutes les maladies. C'est-à-dire qu'il y a une inconstance pour 2 raisons. Déjà, si on y regarde clairement, il y a des moments où c'est plus fort, il y a des moments où c'est moins fort, et il y a des moments où c'est pas là. En général, les moments où c'est pas là, on ne va pas le remarquer. C'est ce qu'on disait avec le mal de dents. On ne se dit pas chouette, j'ai pas mal aux dents. Et l'esprit va faire le lien entre les moments où c'est là. Et du coup, on va avoir la sensation, j'ai mal à la tête depuis 3 jours, mais il y a eu des gaps, il y a eu des pauses en fait, il y a eu des trous réels dans la sensation, dans lesquels cette sensation n'était pas là. Et de plus, il y a peut-être eu aussi des moments où c'était là, mais où on n'en était pas conscient, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, il y a des choses comme la respiration qui peuvent être là, mais si elles ne sont pas dans notre conscience à ce moment-là, on n'en fait pas l'expérience. On fait l'expérience de ce qui est dans notre conscience dans le moment. Donc il se pourrait qu'il y ait un fond de mal de tête, mais qu'on soit complètement absorbé à autre chose, et que pendant 1 heure, en fait, on ne le sente pas du tout, ça ne fasse pas partie de notre expérience. Donc en fait, il y a plein de trous dans notre expérience, et l'esprit, lui, va donner un sens de permanence. Comme si c'était tout le temps là. Mais ce n'est pas permanent. Ça fluctue et ça apparaît, ça disparaît. C'est présent et c'est absent. Et quand c'est présent, ce n'est pas présent de la même manière que ce que c'était présent avant parce que ça fluctue. Vous voyez, donc il y a vraiment deux choses là. dans cette impermanence quand on regarde dans le détail. Donc le mal de tête, c'est pas simplement, si on parle de la permanence comme on l'a vu avant, c'est pas simplement qu'il va avoir un début, une durée, une fin, il a commencé il y a 3 jours et il va finir demain, ou je sais qu'il va finir un jour, mais c'est qu'à l'intérieur même de l'expérience, ce n'est pas permanent. Ce n'est pas non plus une expérience permanente dans le micro-regard. Ce n'est pas juste sur la longueur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un bloc solide. Mais notre esprit va avoir tendance à le solidifier et à en faire un seul bloc, une seule expérience. Et pour toute chose comme ça. Et ça a son utilité. Il ne faudrait pas dire qu'on devrait toujours vivre sans aucune image, sans aucune solidification, sans aucune simplification. C'est impossible. Mais il faut savoir aussi que c'est quelque part une réalité fonctionnelle et conventionnelle, mais qu'il faut aussi avoir la capacité d'en sortir pour retrouver la magie des choses, la magie d'un arbre, la magie de toute chose en fait. Et donc cette pratique dont je commençais à parler tout à l'heure, c'est une pratique qui vient de Corée, qui est aussi dans le bouddhisme, où ils ont vraiment développé cette pratique et poussée assez loin, et elle est super. Alors, du coup, je vous la présente et puis vous verrez si vous l'intégrez à votre pratique. C'est simple, c'est tout simple, hein. C'est de se dire qu'est-ce que c'est. Donc, on approche quelque chose, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais qu'est-ce que c'est? Alors là, on est là en méditation et puis on sent la respiration. Mais là, on se déconnecte de l'idée, je sens ma respiration, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, on porte un regard plus frais, plus neuf sur la sensation de la respiration. Ou bien la sensation de la main, on essaiera après, la sensation de la main et se dire qu'est-ce que c'est? Et là, du coup, on regarde, c'est bizarre hein, parce qu'on peut se dire ça, rien que de se poser la question, et rien que presque de prétendre qu'on ne sait pas ce que c'est, de faire semblant qu'on ne sait pas ce que c'est, va changer la manière dont on ressent. On va ressentir moins comme d'habitude, oh c'est ma main. On va ressentir quelque chose de différent. Et ça peut être appliqué tout le temps. Partout. Qu'est-ce que c'est? Hier, je marchais et j'étais sur le chemin. Et donc, c'était un chemin de montagne. Et je pratiquais ça. Je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est? Et subitement, c'était plus un chemin. Il n'y avait plus un chemin. Il y avait juste des rochers qui étaient mis un peu n'importe comment. Et tout attirait mon regard. C'était, qu'est-ce que c'est? Mais tiens, qu'est-ce que c'est? Et c'était étonnant, en fait. C'était étonnant. Et puis après, même les rochers, c'était plus des rochers, c'était, tiens, mais qu'est-ce que c'est en fait? Et je regardais chaque forme avec les mouches, en plus il pleuvait un peu, il y avait une atmosphère un petit peu mystique comme ça. Et c'était, ben, on comprend pourquoi il y a l'usage des psychédéliques et ce genre de choses pour déconnecter en fait cette manière habituelle de voir les choses, de les voir depuis la mémoire, de les voir depuis le connu. Et ça, ben voilà, là, il n'y a pas besoin forcément de psychédéliques. Vous pouvez utiliser cette question. Qu'est-ce que c'est? Elle va déconstruire un peu cette solidification qui s'est installée. Ça nous permet aussi de quitter parfois on se perd dans des grandes théories. Solidification, c'est à chaque fois des généralisations, c'est-à-dire qu'on prend une chose complexe et on en fait une chose complexe, c'est-à-dire pleine de choses, et on en fait une chose simple à travers des généralisations. Et quand on a la sensation, par exemple, je ne sais pas quoi faire de ma vie, ma vie. En deux petits mots, en fait, on rassemble une complexité immense. Et là, subitement, on se sent perdu, comme si il devait y avoir une réponse à que faire de ma vie, ça, ou que faire de ma vie, ça. C'est presque puéril, en fait. C'est du simplisme, en fait. Il ne peut pas y avoir une réponse. Une question comme ça, il ne peut pas y avoir une réponse parce qu'on emploie une approche beaucoup trop simplifiée à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vaste et ça manque quelque part même d'humilité, c'est presque du populisme quelque part. C'est d'avoir trop, trop simplifié quelque chose et que ça en perd un sens. Et quand on voit qu'on est perdu comme ça dans des abstractions, souvent, le mieux à faire, c'est de ne pas rester là, c'est de revenir à regarder autour et se dire, bah, tiens, qu'est-ce que c'est? Et quitter complètement, en fait, parce qu'on ne va pas trouver. Et ce n'est pas possible de trouver une réponse à une question comme ça, parce que la question, elle n'est pas exprimée dans sa complexité, donc il ne peut pas y avoir une réponse. Alors, je suis tenté, bien sûr, d'aller dans des endroits. Ben, je vais aller un peu dans des endroits qui me fascinent. J'espère que ça sera utile. C'était un peu à ça que je réfléchissais. Mais pour moi, un des endroits fascinants, et on l'a déjà un petit peu touché tout à l'heure dans les questions, un endroit fascinant, non, c'est comment se fabrique la perception. C'est-à-dire, on en parlait de comment, en fait, c'est le cerveau en fait qui donne sens à ce qui est perçu à travers les cinq sens. Donc tout ce qu'on perçoit en fait est une interprétation de ce qui a été perçu par les cinq sens. Est une interprétation donc vraiment, c'est-à-dire quand on va être dans un endroit en fonction de ce qui va être senti, vu, entendu, toutes ces ondes qui vont venir, le cerveau va faire des propositions, c'est des propositions, qui vont se réduire à une vitesse incroyable, il y a une réduction des propositions. Donc dès le premier instant de perception, il va y avoir tout un tas de possibilités qui vont être enlevées enfin, donc qui ne seront plus des possibilités en fait. Par exemple, si on perçoit quelque chose dans le champ visuel de rond, ou de plus ou moins rond, tout ce qui est déjà carré, angulaire et tout ça ne va pas être ça. Et puis après ça, si c'est coloré, il va encore y avoir tout ce qui n'est pas coloré qui va être éliminé. Et peu à peu, en fonction de la taille et tout ça, tout va être éliminé pour ne venir qu'à une seule hypothèse. Ça ne peut être que ça. Et c'est ça qu'on va voir en fait. On va voir notre hypothèse. On va voir l'hypothèse que le cerveau nous a proposée. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Absolument fascinant. Parce que on est toujours dans le domaine de la simplification. C'est une simplification de la complexité de manière à pouvoir naviguer. Donc le cerveau va, en fonction, et il va rassembler les différentes perceptions aussi. Il va associer les odeurs qui sont là, et parfois il peut y avoir une odeur qui est complètement en contradiction avec ce qui est perçu par les yeux, et du coup ça crée de la latence. C'est-à-dire que ça va être un peu plus long pour reconnaître ce qui doit être reconnu. Et ce que je pense qu'il est intéressant de comprendre ça. Donc là, on est vraiment sur le processus perceptif, hein, qui est la base, qui est le premier, la solidification la plus basique en fait, de quelque chose d'extrêmement complexe qui est proposé en une image simplifiée. Mais ne serait-ce que de savoir que c'est ça la perception, je trouve que ça ramène énormément de magie. Donc c'est-à-dire quand on va percevoir quelque chose avec la conscience que ça vient d'être construit, déjà de savoir que cette image en fait se produit en moi. Et on croit que le monde est là dehors, mais en fait l'image elle se produit en nous. L'image parle de nous, l'image parle de comment nous avons reconstruit, comment nous avons reconstruit ce qui a été perçu. L'image parle de nos cinq sens, c'est-à-dire de ce qu'ils perçoivent et de ce qu'ils ne perçoivent pas, parce que chaque sens en fait a ses limites au niveau de la vibration. On ne perçoit pas toutes les ondes avec les yeux, toutes les ondes sonores et tout ça. On a en fait, non, si j'ai pas lu, on a moins d'un millième des ondes qu'on perçoit. Donc déjà, il y a toutes celles qu'on ne perçoit pas, ça y est, ça c'est réglé. Hein, déjà, ça ne viendra pas dans notre notion de la réalité, ça ne fait pas partie de la réalité. Mais dans celles qu'on perçoit, il en reste quand même énormément, mais elles vont toutes être interprétées et refabriquées en une image qui va nous permettre de fonctionner. Et ce processus de création, ce processus de solidification d'une réalité qui a l'air super réelle en fait, mais qui quand même, et qui est quelque part notre réalité et la réalité dans laquelle on fonctionne, et c'est très bien comme ça, c'est comme ça que ça doit être, mais de savoir que c'est comme ça change quelque chose. C'est ça en fait pour moi qui est libérant, qui ramène un peu d'espace et de magie. Et de magie, ça ramène de la magie de savoir que c'est une construction, que ce n'est pas tous les animaux qui vont percevoir de la même manière. Il y a des manières humaines de percevoir, et puis après ça, il y a même des manières sociétales, des manières familiales et des manières individuelles, on pourrait dire. Alors on regarde quelque chose et on dit, mais qu'est-ce que c'est? Et ça redevient mystérieux. Et ça redevient un phénomène qui apparaît. D'ailleurs, c'est un pléonasme. Phénomène, ça veut dire qui apparaît. Alors, une manière de pratiquer la méditation, un chemin de méditation, quand on comprend le pas à pas qui a été fait jusqu'à maintenant avec l'impermanence, quand on ressent le bien fondé d'amener la permanence dans son regard en méditation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, on est en méditation, Il y a des distractions. Quand il y a des distractions, on ne sait pas qu'il y a des distractions, sinon c'est plus des distractions. C'est quand on est absent. OK? Et à un moment, on se rend compte qu'il y a des distractions. Il y a ce moment, ce moment dont je parlais tout à l'heure, où on a la possibilité soit de continuer et d'être reparti immédiatement dans la conscience et la distraction, soit de revenir à la présence. Donc là, on arrive à ce moment-là. Ce moment-là, il existe parce que nous, on a une intention d'être présent. Sinon, on ne se rappellerait même pas. On resterait dans notre distraction tout le temps. Mais là, en méditation, on a une intention d'être présent. On a posé une intention. Notre intention, c'est d'être présent. Du coup, on se rappelle. Ah oui, zut, ok. Donc, on voit la distraction. À ce moment-là, on peut voir la distraction comme un moment impermanent. Hein, si on a cette compréhension. La distraction, c'est juste un moment impermanent. Et là, on est au moment du changement. C'est la fin de la distraction et c'est le début de la sensation de présence. Okay. La sensation de présence est là. Pour moi, ce que ça va faire directement, la première chose qui va venir dans ma conscience, alors que c'était toute une histoire très élaborée, ce qui va venir dans ma conscience juste après, au moment même où je réalise que j'étais distrait, il va y avoir, parce que c'est une habitude, la respiration. C'est mon habitude. D'autres, ça va être les sensations physiques. Pour beaucoup. Il y en a, ça va être un mantra. Il y a des gens qui ont pratiqué avec un mantra. Directement, ça va être le mantra qui va revenir à la présence. Ça dépend ce qu'on a privilégié. Moi, ça va être la respiration. Donc, il va y avoir la respiration qui revient. La respiration revient et en même temps, il va y avoir le réflexe de me dire, mais je ne dois même plus le dire en mots, mais de se dire, ce moment aussi va changer. Parce que c'est un moment agréable, le moment où on revient à la présence. Mais ce moment aussi va changer. Donc, il faut que j'en profite. Et il y a ça implicitement, en fait, c'est là. C'est pour ça que je disais, quand on remarque qu'on était distrait, on peut sourire, parce que ça veut dire que c'est la cessation de la distraction et c'est le moment où on revient à la présence. Super. Il y a le savoir que ce moment ne va pas durer. Du coup, j'en profite. Ça pousse à ça, à l'envie d'en profiter pleinement, parce que ça ne va pas durer. Je sais que la distraction va revenir. Donc, ok, j'en profite. À ce moment-là, il y a la respiration qui est là. Je me dis, ok, vu que tout change, c'est quoi le paysage intérieur en ce moment? C'est ce qu'on a vu auparavant. Je ne me dis pas, oh, je reviens à ma méditation. Ça, c'est une solidification, ma méditation. Ça ne veut rien dire, ma méditation. Parce que chaque moment est différent. C'est quoi ma méditation? Donc, je ne reviens pas, je ne me dis pas, ah, enfin, je reviens à ma méditation. Mais je me dis plutôt, il y a quoi là dans ce moment? C'est quoi ce moment? Et alors, je regarde. Il y a la respiration. Elle est là. Elle est tout le temps là pour moi parce que j'ai beaucoup. Mis d'emphase là-dessus. Directement, c'est ça qu'il y a là. Il y a l'inspire, il y a l'expire, mais il y a aussi des sons, des sensations physiques. Et voilà, il y a un tableau. Un tableau, dans ma conscience, il y a tout un tas de perceptions. Et puis qui change d'instant en instant. OK? Donc je suis dans ce moment-là, il y a de la présence, des choses sont perçues, qui bougent, qui sont en mouvement. Et là, je peux me dire, mais qu'est-ce que c'est ce son? Plutôt que de me dire, ah, un chant d'oiseau. Qu'est-ce que c'est? Et à ce moment-là, je l'écoute d'une façon différente. Ou une sensation dans le corps, qu'est-ce que c'est? Plutôt que de mon genou ou de la chaleur. Tiens, qu'est-ce que c'est? Et hop, du coup, je plonge dedans et ça se déploie différemment. Ça se vit et ça se ressent différemment. C'est une possibilité en méditation. Il y a plein de choses qu'on peut faire en méditation. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui va permettre de dissoudre, de liquéfier les solidifications. Je suis en méditation, c'est ma méditation, je suis avec la respiration, il y a des sons. Tout ça, c'est des simplifications. Tout ça, c'est des solidifications, c'est des boîtes. Mais en fait, chaque son est différent, chaque respiration est différente, chaque sensation est différente, le contenu de la conscience est différent, tout bouge, tout change, tout est impermanent. Et donc, de vivre un moment en dehors du concept, de se permettre de faire l'expérience sans que ça soit une expérience qui soit passée par le filtre de l'idée, par le filtre du connu. Ça me permet en fait de connaître directement quelque chose plutôt que d'être dans des reconnaissances. Ah oui, ça c'est le genou, ah oui, ça c'est l'épaule, ah oui, ça c'est un son, ah oui, ça c'est une pensée. Ça c'est des boîtes tout ça. Ça permet de fonctionner très rapidement pour mettre chaque chose à sa place, mais c'est reconnaître, c'est pas connaître. Connaître, c'est pour une première fois reconnaître, c'est ramener le passé dans le présent. C'est Ce que je vous décris là, il y a une gymnastique de l'esprit, vous le sentez bien, peut-être certains d'entre vous se sentent complètement perdus avec ça, c'est tout à fait normal. Et parfois, on a l'impression que c'est impossible et inaccessible pour nous. Si vous avez cette impression-là, c'est tout à fait normal. Et après ça, peut-être, si vous le, il faut un peu la confiance, il faut un peu la foi, là. Et si vous le pratiquez à un moment, ça devient beaucoup plus simple. Une des avenues majeures à privilégier, c'est déjà de comprendre ce que ça veut dire. Les discours sont enregistrés, vous pouvez les réécouter, vous pouvez essayer de voir, c'est quoi ce chemin? C'était quoi le chemin? Ah oui. Alors, quand je remarque qu'il y a de la distraction, je sais qu'il y avait un truc là. Il y a une manière de voir le retour à la présence. Quelle est cette manière de voir? Essayez de la retenir et puis de l'expérimenter. C'est de l'expérimentation, il y a beaucoup d'expérimentation. Et peu à peu, en fait, ça va devenir votre truc. Si vous deviez l'exprimer, mais vous l'exprimeriez très certainement différemment de la manière dont je l'exprime, parce que chacun fait un peu à sa manière, mais ça aura donné comme des directions générales. Mais à un moment, vous l'aurez intégré, ça sera votre manière de faire. Et encore une fois, ce n'est pas du tout réducteur de la méditation, il y a moyen de faire des choses complètement différentes en méditation. Mais là, cette forme, ce que je vous décris là, c'est un chemin que j'aime bien, parce que si on regarde de A jusqu'à Z, c'est du lâcher prise, c'est lâcher, 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 lâcher. On lâche la distraction, on lâche tout ce qui nous intéresse, on lâche tout ce qui nous fait peur, on lâche tous nos projets, on lâche toutes nos envies, on lâche toute notre identité. Hein, pour revenir à ce qui est là. On lâche l'idée que la méditation c'est comme ceci, on lâche l'idée que la méditation ça devrait être ça, on lâche l'idée qu'on devrait être plus présent ou moins distrait ou qu'on devrait faire autre chose. On lâche l'idée qu'on sait ce que c'est la respiration, on lâche l'idée qu'on sait ce que c'est un genou, on lâche l'idée qu'on sait ce que c'est un oiseau. Vous voyez? On lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Et on se retrouve avec un moment d'une expérience qui est fraîche, qui régénère, qui ramène de l'énergie, de l'enthousiasme, de la beauté, de la gratitude, une sensation d'authenticité. Et les implications de ça, de ce dont on discute maintenant, sont incommensurables. Les implications de ça, les implications de si peu à peu on avait cette attitude, si on avait la capacité de cette attitude dans notre quotidien, de revenir à ce niveau d'instantanéité, de se recontacter soi-même à ce niveau d'instantanéité, de bypasser toutes ces années d'images construites qui, dès qu'on se représente nous à la conscience de nous-mêmes, en fait, on ramène toutes ces histoires, ces constructions et ce bagage. Si on avait la capacité de revenir à ce contact dans l'instantanéité, c'est immense ce que ça veut dire. Et si on pouvait faire ça avec les autres, avec chaque personne qu'on rencontre, chaque personne qu'on connaît, chaque situation, chaque arbre, chaque plante, si on pouvait faire ça, si on pouvait apprendre à avoir aussi ce regard, quand on n'a pas besoin du regard construit, développé, aménagé, nécessaire, fonctionnel, et cesser d'avoir une identité de toutes les identités qu'on a, en fait, quelles qu'elles soient. Un beau projet. Ne serait-ce que marcher dans cette direction-là, c'est déjà magnifique, on n'a pas besoin d'arriver à la capacité. Chaque petit pas est vécu comme une libération. Mais vous voyez là, la manière dont je parle de la méditation, je parle de la méditation comme un entraînement de l'esprit. C'est un entraînement de l'esprit, là. Il y a une manière de voir que j'essaye d'exprimer, j'espère que je le fais suffisamment clairement, mais votre travail va être de l'éclaircir, cette manière de voir, de manière à pouvoir vous l'approprier, et puis après ça, de l'expérimenter, et de voir comment cette manière de voir de l'impermanence, qui a déjà différents visages, on a développé différents visages de l'impermanence depuis le début de ce cycle, comment ces différentes compréhensions de l'impermanence peuvent être ramenées dans mon expérience de la méditation et puis du quotidien, de manière à me permettre de lâcher prise sur ce qui est en train de se solidifier. C'est ça qu'on expérimente. Merci pour votre écoute. Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles,
Pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.